Et puis, après ça, on va lire le verset pour ce matin. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour ce moment que tu nous donnes. Un moment, Seigneur, où nous sondons tes Écritures, un moment que nous prenons, Seigneur, dans le cours de cette journée, pour passer du temps avec toi, un temps que nous voulons profond, profitable et guidé par ta main toute puissante. Alors ce matin, j'appelle ta bénédiction sur ma sœur, sur mon frère, sur moi-même. Ouvre notre entendement, parle-nous, instruis-nous. Et qu'en toute chose, Seigneur, que toute la gloire te revienne à toi et strictement qu'à toi. Nous t'avons prié en ton nom, Jésus. Amen. Alors je lis pour vous dans 1 Jean chapitre 3, le verset 1. La Bible nous dit: Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Je répète le verset. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Alors que Dieu bénisse ce court moment qu'on a ensemble ce matin. On a parlé de l'amour de Dieu depuis dimanche, de cet amour qui est invraisemblable, qui dépasse l'entendement, qui n'est pas mesurable, qui dépasse les normes de la compréhension humaine. Et aujourd'hui, on continue dans cette visée en expliquant pourquoi le monde ne peut pas comprendre cet amour de Dieu à notre égard, pourquoi il ne peut pas comprendre la position importante que devrait jouer ou doit avoir l'Église, en dépit du fait qu'il reconnaisse ou non l'Église comme une entité divine ou pas. Nous avons un rôle à jouer, mais très souvent on prend pour acquis que les gens comprennent l'importance de l'Église et que les gens acceptent le rôle que l'Église doit jouer, particulièrement dans un temps comme celui que l'on vit actuellement un peu partout, mais particulièrement au Québec. Vous savez, les informations qui ont été données depuis dimanche, comme quoi partout au Québec, tout lieu de culte, donc église et tout autre chose aussi, l'assistance est réduite de 250 personnes maximales à tout simplement 50 personnes. Et lorsque on est en zone orange, comme Montréal particulièrement, on tombe donc à 25 personnes. Plusieurs se sont levés, plusieurs ont été outrés du fait que l'Église n'ait pas été consultée. Et quand je parle de l'Église, je parle de l'Église en général au Québec, que nous n'ayons pas été consultés, qu'on ne nous ait pas demandé notre avis ou qu'on ne nous ait pas parlé, pris à part pour nous parler. Mais cela s'explique foncièrement par ce verset-là ou par cette partie de verset qui dit qu'ils ne peuvent pas nous connaître parce qu'ils n'ont déjà pas connu le Seigneur. Alors, trois mots importants pour nous ce matin. Le mot « monde », qu'est-ce que le monde? Le mot « connaître » et le mot « Dieu », qui est assez simple malgré tout. Donc, le premier terme, « monde », « cosmos », « K-O-S-M-O-S », je répète, « K-O-S-M-O-S ». Le mot « connaître », toujours pour ceux qui prennent des notes, un terme qu'on a déjà utilisé à plusieurs reprises depuis les derniers mois, le terme ginosko ou ginosko, comme vous voulez le prononcer, G-I-N-O-S-K-O, je répète, G-I-N-O-S-K-O, et le terme Dieu, Theos, T-H-E-O-S, T-H-E-O-S. Réglons déjà ce que veut dire Theos. Lorsque dans la parole de Dieu, on utilise le terme Dieu, tel qu'utilisé ici dans ce verset avec le terme Théos, on parle du seul, du véritable, du vrai et du véridique Dieu. Je sais, c'est redondant, je sais, c'est une série de synonymes, mais c'est pour montrer que dans la parole de Dieu, il n'existe pas d'autre Dieu. Même si le monde voudrait prétendre qu'il y en a d'autres, la Bible nous explique que tout le restant est une invention humaine ou tout le restant est tout simplement des anges déchus travaillant pour le diable. Mais que le seul vrai, véritable, véridique, éternellement existant Dieu, c'est celui de la parole de Dieu, c'est celui de la Bible, et qui s'est manifesté en chair et en os en la personne de Jésus-Christ. Donc, qu'est-ce que le monde? Le monde va être expliqué dans la parole par trois définitions, dira-t-on. Tout d'abord, l'ensemble du genre humain, comparativement aux animaux. Donc, l'homme en général va être appointé par le terme cosmos. Par la suite, on va parler de cosmos aussi pour toute cette multitude qui vit éloignée de Dieu. Donc, en comparaison, il y a l'Église qui représente le peuple de Dieu et tout ce qui ne serait pas inclus dans le peuple de Dieu, à l'extérieur donc de l'Église, à l'extérieur du peuple de Dieu, cette multitude éloignée de Dieu, c'est aussi ce par quoi on qualifie le terme cosmos. Enfin, cosmos va aussi nous parler des ornements, des parures, du maquillage qu'on peut, ou de l'extérieur d'une chose. Cosmos veut toujours dire ce qui est à l'extérieur, donc à l'extérieur de la Terre, à l'extérieur du cercle de la Terre, et cosmos va nous parler aussi de l'extérieur d'une personne. Et cela va nous permettre de saisir un peu mieux la pensée de Dieu par rapport au cosmos. Oui, c'est effectivement la multitude qui est séparée de Dieu. On a eu l'occasion de mentionner à plusieurs reprises comment on venait à être en paix avec Dieu, comment on faisait la paix avec Dieu, comment on recevait le pardon de nos péchés. Et je vais l'expliquer encore brièvement pour ceux qui seraient parmi nous ce matin qui n'auraient pas entendu. Déjà, la Bible nous dit que nous sommes tous pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire que dès notre naissance, de par notre nature pécheresse qui a été initiée par le péché premier commis par Adam et Ève, toutes les générations qui ont suivi sont nées avec cette tare, avec cette maladie mortelle, spirituellement mortelle bien entendu, qu'on appelle le péché. Et toi et moi, nous sommes nés déjà avec cette teigne ou cette tare en nous qu'on appelle le péché. Malgré tous tes efforts, malgré mes efforts, par moi-même, je ne peux pas me débarrasser, un, de cette nature du pécheresse, et deux, des conséquences et des condamnations liées à cette nature pécheresse. La Bible nous dit que le seul sauveur qui a été donné, par lequel nous puissions être sauvés, est Jésus-Christ. Dieu fait homme, ayant pris sur ses épaules, qui était pure, sainte, irréprochable, il a pris les péchés de l'humanité sur ses épaules. Et la Bible nous dit que quiconque qui croira en lui et sera baptisé sera sauvé. Donc, quiconque croira en lui, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc, pour ne pas appartenir au cosmos, mais plutôt faire partie du corps de Christ et de l'Église, il faut donc effectivement avoir reconnu que nous sommes pécheurs, avoir reconnu que nous avons besoin d'un sauveur et demander à ce sauveur ou recevoir de ce sauveur le pardon de nos péchés et lui remettre notre existence pour qu'il l'utilise et qu'il nous conduise pas à pas dans les sentiers qu'il a lui-même tracés pour nous. Donc, c'est pas non seulement d'avoir un sauveur, mais aussi d'avoir un seigneur, un maître, un propriétaire sur notre existence. Voilà comment on peut appartenir au corps de Christ et être donc séparé ou être donc distant de ce qu'on appelle ce matin le cosmos, donc le monde. Mais je pense que l'autre notion aussi du cosmos, quand on parlait tout à l'heure de ce qui va donner le terme plus contemporain de cosmétologie, donc tout ce qui est le maquillage, tout ce qui est la parure, tout ce qui est l'extérieur, est une chose intéressante. Lorsqu'on parle du cosmos, lorsqu'on parle du monde, des gens qui sont éloignés de Dieu, on parle aussi des gens de l'extérieur, mais pas simplement physiquement à l'extérieur de l'Église, mais les gens pour qui simplement l'extérieur a été travaillé, ceux dont l'intérieur n'a pas été transformé. L'Église, les membres du corps de Christ, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, parce que nous sommes venus à Christ, notre vie a été transformée et elle n'est pas transformée physiquement. C'est-à-dire que lorsque je viens à Jésus, c'est pas parce que je viens à Jésus que je suis physiquement plus beau. C'est pas parce que je viens à Jésus que tout d'un coup je me mets à avoir les biceps de Monsieur Univers que je n'avais pas la veille. C'est pas parce que je viens à Jésus que le poids des années fait en sorte que mes cheveux sont devenus blancs et en venant à Jésus, ben là je retrouve les cheveux bruns ou noirs foncés que j'avais quand j'étais plus jeune. Non, quand je viens à Jésus physiquement de l'extérieur, il y a rien qui change. Ce qui change est à l'intérieur. Et voilà pourquoi les gens du monde sont considérés dans la parole de Dieu comme le cosmos. Donc les gens de l'extérieur, les gens dont simplement l'extérieur est travaillé, mais pas l'intérieur. Donc à la base, si on parle du cosmos, des gens du monde, ils ne peuvent pas connaître Dieu, ils ne peuvent pas reconnaître même l'Église, parce que l'intérieur de leur vie n'a pas été transformé. On nous dit que le monde ne connaît pas l'Église, ne nous connaît pas, nous, l'Église, parce qu'ils ne connaissent pas Dieu non plus. Donc, ginosko, théos, connaître Dieu. Et je répète la définition de Dieu pour théos, qui veut dire le seul, vrai, véritable et véridique Dieu. Connaître Dieu va venir avec trois étapes, avec trois définitions successives. Il y a d'abord venir à connaître Dieu, devenir intime avec Dieu, puis devenir familier avec Dieu. Et pour nous, ça va nous donner trois étapes quant à la vie chrétienne, d'une part, mais aussi trois étapes où les gens du monde, où le cosmos ratent leur rencontre avec Dieu. Premièrement, ils ne peuvent pas être transformés parce qu'ils sont incapables de venir à connaître et à découvrir réellement Dieu. La seule connaissance que les gens du monde ont de Dieu n'est pas une connaissance active, n'est pas une connaissance personnelle, intime, c'est tout simplement une connaissance de ce qu'on a pu leur dire autrefois de Dieu. Très souvent, pour ceux qui ont été élevés dans la tradition, comme plusieurs familles québécoises, voire même européennes, je suis d'origine franco-italienne, donc pour nous, l'Église traditionnelle était foncièrement ce qui était enseigné de génération en génération. Mon père a été servant de messe pendant toute son enfance. Ma mère a été élevée, mon père était italien, ma mère était purement française, a été élevée aussi dans la tradition catholique de l'époque. Mais cette tradition faisait que pour la plupart d'entre nous, c'était tout simplement une question de coutume, d'habitude, et une question que pour le soir de Noël, pour la Pâque, pour l'Ascension, pour toutes les fêtes du calendrier traditionnel, on se rassemblait à l'église et pour des événements spéciaux, tel un mariage, un baptême d'enfant ou autre, on se présentait à l'église. Mais cette communion, cette prise de communication avec Dieu était totalement inexistante. Pendant un certain temps, même, on disait aux gens, il ne faut pas lire la Bible, parce que si vous lisez la Bible, vous allez devenir fou. Pendant des générations, jusqu'à environ peut-être une trentaine ou une quarantaine d'années, les choses ont changé, mais le texte biblique, à la base, était limité simplement au clergé et le peuple dont nous faisons partie, nous tous, n'avait pas accès aux écrits parce qu'on disait que ça pouvait rendre quelqu'un fou et qu'on aurait de mauvaises interprétations. Donc la plupart d'entre nous, on a vécu dans un mode de connaissance de Dieu qui était très éloigné. On nous gardait à distance de Dieu. Donc à la base, on ne pouvait pas être transformé parce que la transformation dans la vie d'un homme par la main de Dieu se passe avec une proximité, se passe avec une intimité. Donc à la base, ils ne peuvent pas connaître Dieu parce qu'ils ne sont pas venus à le connaître et à le découvrir réellement d'une façon personnelle. Deuxièmement, ils ne sont pas devenus des intimes de Dieu. Vous voyez, il y a différentes statures de connaissance de Dieu. Il y a différentes proximités qu'on peut avoir avec Dieu. Et une d'entre elles, c'est de devenir un intime avec lui. Chacun d'entre nous sommes appelés à devenir un intime du Seigneur. La Bible nous dit qu'il se laisse trouver par celui qui le cherche. Ça veut donc dire que si je cherche Dieu, je peux non seulement le découvrir, mais de surcroît à cela, je peux devenir un intime. La Bible nous dit, et Jésus va s'adresser à ses disciples en leur annonçant les choses qui allaient se passer, en leur annonçant sa mort et sa résurrection. Il va dire, je ne vous ai pas parlé comme à des disciples parce que le serviteur ne sait pas ce que son maître fait, mais je vous ai appelé comme des amis. Et pour qu'il y ait amitié, il faut donc qu'il y ait intimité. La Bible nous parle d'un homme qui était qualifié comme étant l'ami de l'Éternel dans l'Ancien Testament, et vous avez tous compris que je parle d'Abraham. La Bible va nous dire qu'Abraham était un ami de l'Éternel et que ça lui a été imputé à justice. Donc cette chose-là était juste devant le Seigneur, que Abraham soit appelé, interpellé comme étant un ami de l'Éternel. Mais à un moment donné, lorsque Dieu va se présenter avec deux anges, lorsque le Seigneur va apparaître devant lui avec deux anges et qu'il s'apprête à aller détruire Sodome et Gomorre, Dieu va avoir cette phrase importante. Cacherai-je à Abraham ce que je m'apprête à faire? Cacherai-je à Abraham ce que l'Éternel s'apprête à faire? En fait, il était en train de dire à Abraham, t'es tellement intime avec moi que je ne peux pas passer outre ta personne pour aller faire des choses sans que tu le saches. Ça, c'est être intime avec Dieu. Et c'est accessible, c'est possible pour tout être humain qui s'approche du Seigneur et qui vient à le connaître. Donc, au lieu de le connaître simplement à distance, comme autrefois, au lieu d'avoir simplement une première étape de connaissance avec lui, nous pouvons aussi devenir intimes. Mais de surcroît à cela, et comme troisième étape, quand on nous dit qu'ils ne peuvent pas connaître Dieu, les choses qu'ils n'ont pas fait, un, c'est qu'ils ne sont pas venus à le connaître, deux, ils ne sont pas intimes avec lui, et trois, ils ne sont pas familiers avec lui. Et quand je parle de familiers, je ne veux pas dire qu'ils sont tout simplement copains-copains avec lui, qu'ils sont des gens qui ont l'habitude d'être avec lui. Non, ici, quand on parle de familiers, on parle vraiment d'être d'une même famille, d'appartenir à la famille de Dieu. Pour connaître Dieu, pour expérimenter Dieu, pour le voir se manifester à nous clairement véritablement dans nos vies, il nous faut aussi devenir partie prenante de la famille de Dieu. Et la Bible nous dit donc dans ce verset, si le monde ne connaît pas l'Église, si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'ils ne connaissent pas déjà Dieu, donc ils ne l'ont pas découvert, donc ils ne sont pas devenus intimes et ils ne sont pas des enfants de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui voudraient renverser le processus. Ils voudraient dire, mais fais-toi connaître, puis après ça, je viendrai. Fais-toi connaître, révèle-toi, puis après ça, je verrai si j'ai envie ou non de m'approcher de toi. Le processus n'est pas dicté par l'homme, parce que l'homme ne domine pas Dieu. Le processus est dicté par Dieu, et il faut qu'il y ait une approche, il faut qu'il y ait une intimité, et il faut que nous devenions enfants de Dieu, pour que Dieu se révèle dans sa pensée, dans ses objectifs, dans sa vision, et pour que cette vision même devienne nôtre, nous devons être enfants de Dieu. Donc, le monde ne peut pas connaître Dieu. Le monde est empêché de connaître Dieu à cause de son éloignement du Seigneur. Mais ce faisant, ben, s'ils ne reconnaissent pas Dieu, il est tout à fait aussi normal qu'ils ne reconnaissent pas l'Église. S'ils n'ont pas expérimenté Dieu, il est donc tout à fait normal qu'ils n'expérimentent pas l'Église. Donc, puisqu'ils n'ont pas été transformés, alors ils sont incapables de devenir ou de venir vraiment à connaître ce qu'est l'Église. Pour plusieurs, l'Église est quoi? L'Église est un rassemblement pour ceux qui sont faibles d'esprit. Marx va dire que la religion est l'opium du peuple, donc pour essayer de ne pas regarder la réalité, il fumait de l'opium pour divaguer, et c'est la même chose qu'il considère concernant la religion et particulièrement la foi chrétienne, puisque ça a été, dans le cas de Karl Marx et du communisme, ça a été une des premières, un des premières, des premiers chevaux de bataille qu'il a prôné, donc éradiquer la religion et éradiquer la chrétienté. Donc, plusieurs vont penser que l'Église est tout simplement pour ceux qui sont faibles, pour ceux qui sont pas capables de se tenir tout seuls, pour ceux qui ont besoin d'une béquille dans leur vie de tous les jours. Pour d'autres, ça va être tout simplement un lieu où on abuse les uns des autres, où on doit faire vivre des gourous chèrement au détriment de la population. Et je ne suis pas en train de dire que certains ne se sont pas glissés dans de telles positions et qui n'ont pas commis effectivement des abus. Je suis assez honnête pour reconnaître qu'effectivement, certains pasteurs, oui, ont abusé et certains pasteurs n'ont pas été le modèle qu'ils devaient être. Mais foncièrement, c'est souvent ces images-là qu'on lance au grand public au détriment de tous ceux qui ont foncièrement servi le Seigneur avec honnêteté et qui ont servi la communauté chrétienne avec honnêteté. Mais le monde, parce qu'ils ne connaissent pas Dieu, ne peut pas non plus connaître l'Église et venir à le saisir réellement. Ils ne peuvent pas devenir intimes avec l'Église parce qu'ils ne reconnaissent pas l'importance de Dieu et l'importance donc de son corps que pourrait être l'Église. Et bien sûr, bien entendu, ils ne peuvent pas non plus faire partie de la famille de Christ. Je pourrais m'arrêter là ce matin et ça pourrait expliquer pourquoi l'Église actuellement n'est pas reconnue, pourquoi l'Église n'a pas été prise en compte pour les décisions qui ont été mises de l'avant dernièrement, pourquoi on n'a pas reconnu l'importance de l'Église dans la santé publique, dans le bien-être de la population et pourquoi on n'a pas reconnu le travail de l'Église auprès de la population chrétienne, oui, mais aussi auprès de l'ensemble de la société. Et on pourrait rester sur ces points-là pendant des heures et des heures. L'Église a aussi son rôle à jouer pour être reconnue. L'Église doit comprendre que avant d'afficher l'Église, elle doit afficher Dieu. C'est le principe premier. Ils ne peuvent pas connaître l'Église parce qu'ils n'ont à la base pas connu Dieu. Mais il y a un verset important dans Romains au chapitre 10 et le verset 14 que vous connaissez tous, qui ne sera pas une nouveauté pour vous, mais je pense qu'il doit être mis de l'avant ce matin. La Bible nous dit au verset 14 dans Romains au chapitre 10, donc ceux qui prennent des notes, Romains 10, verset 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui qu'ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Le verset 14 nous dit, comment croiront-ils ou comment invoqueront-ils en celui en qui ils n'ont pas cru? Comment croiront-ils s'ils n'ont pas entendu? Comment entendront-ils si personne ne prêche? Donc l'Église a sa responsabilité par rapport à l'endroit où elle est aujourd'hui. L'Église a aussi sa responsabilité par rapport au fait de faire connaître l'Évangile. la réponse qu'ils offrent, que le monde offre à l'Évangile, ça regarde le monde et ça regarde Dieu. C'est entre eux et Dieu. Mais le fait de propager l'Évangile, c'est ma responsabilité et c'est ta responsabilité. Et à travers les dernières années, j'ai l'impression qu'on a voulu beaucoup présenter l'Église comme un organisme à part entière, mais on a oublié de présenter Dieu. Si vous regardez ce qu'est l'Église évangélique au Québec, l'Église évangélique ne représente que 1%, 1,1%. Je regardais les statistiques encore hier parce que j'avais des échanges avec certains. L'Église évangélique ne représente que 1,1% de la société. On s'entend, le gouvernement ne prêtera jamais attention à ceux qui ne représentent que 1,1% de la société. Mais comment ce 1,1% peut-il grandir? À moins que nous n'évangélisions cette province, à moins que nous ne parlions du Seigneur, à moins que nous partagions notre foi. Et c'est là où on a raté. Et c'est là où plusieurs, de par notre paresse, de par de notre insouciance, de par de notre inconscience par rapport au mandat qui nous était donné, où nous avons failli. Et devant Dieu, je crois que nous devons nous repentir. Je crois que nous devons nous repentir de ne pas avoir été le porte-voix que nous devions être. Je crois qu'on doit se repentir de ne pas avoir partagé l'amour, la grâce de Dieu autour de nous comme nous devions le faire. Si cette notion de l'éternité, et si cette notion que 99% du Québec a besoin d'entendre parler de Jésus, si ça nous habitait réellement, nous aurions effectivement parlé un peu plus de notre Seigneur. Au lieu de parler des droits que nous revendiquons, au lieu de parler de la façon dont on est brimé, de la façon dont on n'est pas respecté et de la position qu'on aimerait qu'on nous accorde, nous devons parler de Dieu. Nous devons parler de Jésus. Nous devons parler du Sauveur. C'est en connaissant ce Sauveur qu'ils pourront connaître l'Église et non pas l'inverse. Alors ton mandat et mon mandat, mon frère, ma sœur, mon bien-aimé, ma bien-aimée, c'est que nous devons être des porte-voix pour Dieu. Nous devons être des témoins de notre Dieu. Nous ne pouvons plus passer une journée de plus, une semaine de plus, une saison de plus, un an de plus, sans parler de Jésus. Qui est la dernière personne à qui tu as franchement, délibérément, consciemment parlé de Jésus? Qui est la dernière personne à qui ou à quand remonte la dernière fois où tu as parlé à quelqu'un qui appartient au cosmos, qui appartient au monde, à qui tu as parlé de Jésus? Certains d'entre nous, soyons honnêtes, nous pouvons passer notre vie à huis clos au sein de l'Église et oublier qu'il y a toute une génération de nos contemporains qui s'en vont en enfer. Ils ne connaîtront pas l'Église si nous ne leur faisons pas connaître Dieu. Et c'est ton mandat et c'est mon mandat. Actuellement, ça devrait être ta priorité. Et voilà pourquoi nous allons continuer à prêcher. Et voilà pourquoi nous allons continuer à enseigner. Et voilà pourquoi vous aurez remarqué que pour ceux qui sont des plus vieux dans la foi, vous allez remarquer pourquoi je parle si régulièrement depuis que nous sommes en confinement et que nous sommes sur Internet, pourquoi je parle si souvent de ce que nous appelons le plan du salut. Reconnaître que nous sommes pécheurs, reconnaître que nous avons besoin d'un sauveur, reconnaître que le seul sauveur et seigneur qui a été donné et s'appelle Jésus-Christ et qu'il est mort pour nos péchés, et le faire notre sauveur et faire de lui le seigneur de notre vie. Je ne peux pas me lasser de parler là-dessus parce que je comprends qu'il y a toute une génération qui est en train de s'éloigner de Dieu, qui est en train de mourir sans Dieu, et ce faisant, l'Église n'aura jamais la place que tu voudrais qu'elle ait, à moins que nous nous mettions à parler, et à parler du roi et non pas de tout un tas d'autres choses. Alors je parlerai du roi aujourd'hui. Tu parleras du roi aujourd'hui, nous parlerons du roi aujourd'hui. On va prier pour terminer ce matin. Seigneur, tout d'abord, nous voulons nous présenter honnêtement devant toi, reconnaissant que nous n'avons pas été les témoins que nous devions être. De façon très personnelle, nous sommes amenés ce matin à admettre, Seigneur, que nous n'avons pas parlé de toi comme nous devions. Ils ne peuvent pas connaître ton Église parce qu'ils ne t'ont pas à la base connu. Mais ils ne peuvent pas te connaître s'ils n'entendent pas. Et ceux qui doivent parler, c'est nous. Alors pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur, d'avoir perdu tant d'années. Perdu, Seigneur, tant de temps. Notre mandat était d'être des témoins pour notre Sauveur, des témoins pour notre Seigneur. Et nous nous sommes tus. Mais Seigneur, tu nous accordes encore le souffle de vie. Alors l'occasion, Seigneur, pour être des témoins actifs et efficients pour toi. Je prie, Seigneur, que suite à la parole de ce matin, aucun d'entre nous ne puisse continuer à vivre à huis clos au sein de l'Église. Mais que nous puissions nous tourner vers cette génération qui se perd avec le désir ardent de gagner cette génération pour toi, d'être de fidèles témoins pour toi et de propager ton Évangile. Seigneur, tu nous dis, ouvre ta bouche et je la remplirai. Et c'est souvent là, Seigneur, l'obstacle qu'on rencontre. On refuse d'ouvrir la bouche. Mais je prie, Seigneur, que la parole de ce matin ne nous laisse pas tranquilles. Et qu'elle pousse, Seigneur, chaque personne qui l'entendra à être des témoins qu'on entend, à être des témoins qu'on voit, à être des témoins qui ne se cachent plus et qui accomplissent leur mandat avec hardiesse, avec ténacité, avec dévouement et avec conviction. J'appelle la bénédiction sur ma sœur et sur mon frère. Nous t'avons prié en ton nom, Jésus. Amen. Alors, je vous rappelle les rendez-vous pour nous aujourd'hui, ce soir avec le pasteur Sergio, lors de l'étude biblique sur le livre de Marc, avec comme thème « Servir Dieu en période de défi ». C'est effectivement notre cas actuellement. Alors que le Seigneur nous aide. Et puis, vous rappelez aussi que, bien sûr, il n'y a pas d'inscription actuellement pour l'assemblée de dimanche. Il n'y a plus d'assemblée en présentiel. Les assemblées se font sans public. Pour remplir toutes les recommandations de la santé publique. Oui, on a le droit à 25 personnes, mais sur ces 25 personnes, on inclut l'équipe technique, et l'équipe technique va être entre 15 et 20 personnes pour faire un bon travail. Donc, ça nous laisserait entre 5 et 10 personnes du public simplement à être là, et ça serait difficile de départager qui vient, qui ne vient pas. Donc, on préfère vous demander de rester à la maison, d'être connecté via votre ordinateur, de nous suivre. Et puis, on va diffuser la meilleure assemblée qu'on est capable, non seulement parce qu'on veut honorer notre Dieu adéquatement, mais aussi parce qu'on veut vous servir de la meilleure façon qui soit. Donc, on vous invite donc à être là. Pour ceux qui ne l'ont pas su aussi, l'assemblée qui était supposée avoir lieu samedi soir à Montréal pour souligner l'anniversaire de l'EAJC Rivière-des-Prairies. Donc, cette assemblée-là ne se tiendra pas à l'église à Montréal. Va se tenir, oui, à l'église à Rivière-des-Prairies, mais va être strictement limitée à 25 personnes, selon les normes, est strictement limité aux gens de la congrégation de Rivière-des-Prairies. Donc, pour ceux qui sont de l'église de Rivière-des-Prairies, on vous invite donc à communiquer avec le pasteur Hannibal pour voir les modalités. Mais cette assemblée va donc avoir lieu. Logiquement, si vous êtes membre de la congrégation, il vous aura effectivement déjà appelé ou il est sur le point de vous appeler pour parler avec vous. Donc, l'assemblée n'a pas lieu à Montréal. Elle a lieu à Rivière-des-Prairies pour les gens de Rivière-des-Prairies uniquement. Et puis avec une limite telle que le prescrit la santé publique de 25 personnes. Alors, quelques personnes à saluer. Bonjour à Sylvia. Bonjour à Diana. Bonjour à Jimmy. Bonjour à Consuelo et à Jean. Bonjour à Chanel, bonjour à Evelyne, bonjour à Lalande, à Landry, bonjour à la sœur Nancy, bonjour à la sœur Samek, bonjour à Suze, bonjour à Jude et Caridad, bonjour à la sœur Argelia, bonjour à Linda, bonjour à Marie-Thérèse Grève, j'espère que j'ai bien prononcé le nom de famille, que Dieu vous bénisse. Bonjour à Marie-Huguette. Bonjour à Maria Corina de Almeida. Dios la bendiga. Et c'est tout pour ce matin. Donc sur ce, soyez de bons témoins. Parlez de Jésus. Ne vous lassez pas. Insistez en toute occasion, favorable ou non. Prêchez, prêchez, prêchez. Témoignez, témoignez, témoignez. C'est important. Que Dieu vous bénisse et on se retrouve donc ce soir avec le pasteur Sergio à 19h et demain matin pour notre prochaine bénédiction matinale. Au revoir à tous.